Vous êtes sur RTL.
7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Emmanuel Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire et co-animatrice du Grand Débat National.
Et merci beaucoup d'être ce matin dans ce studio d'RTL. Bonjour Emmanuel Wargon.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Après Nicolas Hulot, Mathieu Orphelin, qui est un proche de l'ancien ministre, une incarnation de l'écologie dans la majorité, claque la porte. Cette majorité, justement, elle est fâchée à ce point avec la défense de l'environnement.
Bon, bien sûr, je regrette le départ de Mathieu Orphelin. C'est un député engagé, passionné par les sujets écologiques. Et je pense qu'il a tort de voir le verre à moitié vide, parce que l'écologie, on se bat tous les jours pour. La semaine dernière, on est allé à Fessenheim signer le projet de territoire qui rend concrète la fermeture de la centrale nucléaire. Les deux tranches nucléaires, on ferme en 2020. C'est la première fermeture française. On est engagé sur les territoires pour la transition agricole, pour la transition énergétique, pour le transport plus durable, pour la rénovation du bâtiment. On peut toujours faire plus vite, plus fort, mais je crois que le combat, c'est maintenant. Et d'ailleurs, la transition écologique est aussi au grand débat.
Alors, c'est vrai que lui souligne dans la lettre qu'il a adressée au groupe La République En Marche que ce combat, finalement, il a l'impression de le perdre jour après jour. Il dit, par exemple, que vous êtes prisonnier des logiques budgétaires et d'arbitrage politique de court terme. Est-ce qu'il a tort quand on apprend, par exemple, hier, que Bercy a tenté de réhabiliter le diesel des voitures neuves en les réintégrant dans la catégorie des vignettes critère 1? Est-ce qu'il a tort?
La question du diesel et des vignettes, c'est une question scientifique. Donc ce n'est pas une décision industrielle, c'est une décision pour savoir ce qui est bon pour la santé des gens, ce qui est bon pour la transition écologique. Chaque ministère est dans son rôle en poursuivant sa propre vision, mais je voudrais vous rassurer, et d'ailleurs je crois que ça a été dit dans votre reportage, le ministère de l'écologie est contre, ça n'aura pas lieu.
Mais vous admettez, vous ou pas, puisque c'est un peu la question de fond aussi qui est en débat entre les ministères, que vous dites le diesel, voilà l'ennemi et on doit s'en séparer absolument, quelles qu'en soient les conséquences économiques, notamment en termes d'emploi. C'est une filière qui emploie 40 000 personnes. Ou est-ce que vous dites, ben non, il y a des diesels dernière génération qui finalement polluent moins que certaines voitures essence?
Ce que je dis, c'est que la transition écologique, elle doit primer, parce que l'urgence qui est devant nous, c'est l'urgence du changement climatique et l'urgence de l'épuisement des ressources naturelles. Mais cette transition, elle doit entraîner une transition dans tous nos secteurs de production. Transition industrielle, ça veut dire que quand on ferme un site de production, je vais reprendre l'exemple des centrales à charbon, on dit aux personnes qui travaillent dans ces centrales, oui, cet outil industriel, il pose trop de problèmes écologiques, on va l'arrêter et on va reconvertir. La question du diesel, soit on arrivera à trouver vraiment du diesel propre, et c'est une analyse scientifique, dans ce cas-là, la décision, ça doit être une décision qui respecte l'urgence écologique et la santé.
Donc vous engagez le gouvernement ce matin, il n'est pas question de réhabiliter le diesel neuf.
Le jour où ce sera démontré que ces véhicules sont des véhicules qui ont toutes les garanties en matière de lutte contre la pollution, à la fois gaz à effet de serre et aussi autres polluants type particules fines, la décision s'imposera scientifiquement.
Et pour l'instant, ça n'est pas le cas.
À ma connaissance, ça n'est pas le cas.
Donc vous dites aux constructeurs et au lobby du diesel, apportez-nous la preuve que vraiment vous ne polluez pas, ça n'est pas le cas. Vous ferez rempart de votre corps, Emmanuel Wargon, si Bercy devait revenir à la charge. Bercy reviendra à la charge, vous le savez.
Ça sera une décision scientifique. Quand on sera clair sur avantages et inconvénients, on décidera. Pour moi, le moteur de la décision, c'est l'impact sur la planète.
Vous rencontrez des gilets jaunes régulièrement, je crois, en déplacement, en marge des déplacements présidentiels. D'ailleurs, encore aujourd'hui, vous allez les rencontrer à Autun, en Saône-et-Loire.
Oui, je serai avec le président pour ce grand débat avec les jeunes. Et à chaque fois qu'il le souhaite, je rencontre des délégations de gilets jaunes. Je l'ai fait à beaucoup de reprises maintenant.
Jamais avec le président ?
Le président a vu des personnes qui portent des gilets jaunes. La dernière fois, c'était à Bourg-de-Péage, dans la Drôme. Il était dans un grand débat citoyen. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des images, mais il a fini dans une grande discussion avec un monsieur qui portait un gilet jaune et qui l'a interpellé assez positivement.
Mais aujourd'hui, il ne sera pas avec vous quand vous les rencontrerez. Vous, par parenthèse, même si ce n'est pas secondaire, ça ne risque pas de lasser ces marathons présidentiels?
Le grand débat, c'est 4000 réunions programmées, dont environ 1300 qui ont déjà eu lieu et 2700 qui n'ont pas encore eu lieu.
Présidentiel.
Mais ce que je veux vous dire, c'est que À l'intérieur de ces 4000 réunions, il y a une, pour l'instant 5 ou 6 réunions dans lesquelles le président s'est engagé, quelques autres dans lesquelles les membres du gouvernement s'est engagé, mais la grande masse des réunions, la grande masse du grand débat, elle se fait sans les membres de l'exécutif, elle se fait entre les citoyens qui débattent avec des maires ou des associations.
4000 réunions en tout, un peu plus d'un millier déjà, donc encore plus de 2000 à faire. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que ça risque pas de lasser ces marathons présidentiels? On entend même au sein de la majorité des voix s'élever pour dire « bon, il faudrait peut-être qu'il s'efface un peu, il prend toute la lumière, et puis finalement l'effet produit au début, qui était positif, on le voit d'ailleurs dans les sondages, peut finalement s'estomper et se retourner contre lui ».
Je crois qu'il y a aussi une demande de rencontre, de discussion sur le même plan entre le président, des élus de terrain, des associations, des citoyens. Là, c'est une rencontre avec des jeunes aujourd'hui, des apprentis, des lycéens. Les jeunes sont encore relativement peu mobilisés dans le grand débat. Si ça permet de les mettre en valeur, si ça permet de donner envie, je trouve que c'est bien. Donc à ce stade, je ne crois pas.
Vous nous confirmez qu'il a renoncé à envoyer sa lettre aux Français, la fameuse lettre qu'il avait fait paraître sur les réseaux sociaux et dans laquelle il justifie les grands débats, il pose les questions. Elle n'arrivera pas dans les boîtes ?
Je confirme qu'à ma connaissance, cette lettre ne sera pas postée physiquement. Elle a été diffusée par plein de médias, elle est
Pourquoi
disponible.
C'est trop cher, trop compliqué ?
En fait, on s'est posé deux questions, la question du prix et aussi la question des délais, parce que ce grand débat est une opération qui aura une nouvelle phase à partir de mi-mars. Et donc, si cette lettre arrive après...
Le risque était qu'elle arrive après. Aussi, encore une petite question. Il avait annoncé des conférences dans chaque région avec des citoyens tirés au sort. Tirés au sort comment ? Sur la base des listes électorales ou sur la base de numéros choisis de façon aléatoire ?
Toute la méthodologie du grand débat, elle est sous le contrôle et en discussion avec les 5 garants qui ont été nommés par le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil économique et social et le gouvernement. Et nous avons eu cette discussion avec les garants pour savoir comment tirer au sort des citoyens. Donc d'abord, je voudrais vous dire, ces conférences citoyennes, elles auront bien lieu. Elles auront lieu dans chaque région, en métropole et en outre-mer, et on en fera une transversale uniquement avec des jeunes, pour être sûr que la parole des jeunes est entendue.
Une transversale, donc...
Elle aura lieu quelque part, mais multi-région, dans laquelle on ne tirera au sort que des jeunes, probablement entre 16 et 25 ans, on est en train de travailler sur la méthodologie. Elles auront lieu dans la deuxième quinzaine de mars, probablement les week-ends. Et quant à la méthodologie de tirage au sort, on a regardé avec les garants, avantages et inconvénients de plusieurs méthodes. Et les garants nous suggèrent de ne pas prendre les listes électorales, mais de prendre les numéros de téléphone et nous allons respecter leurs propositions.
Allô, c'est le grand débat. On peut tous recevoir éventuellement un coup de fil. Allô, c'est le grand débat.
Est-ce que vous accepteriez de participer à une conférence régionale du vendredi fin de journée au samedi fin de journée pour réfléchir aux propositions et permettre d'avancer?
Donc voilà, les précisions sur ce tirage au sort, c'est intéressant. Emmanuel Wargon, une des questions en suspens et qui est fondamentale pour que les Français ne se sentent pas floués après ce grand débat inédit en France, c'est comment vous allez traiter cette masse de contributions, de propositions, d'avis, de doléances. Vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, on avance.
Question d'indépendance et de transparence.
On avance sur ce sujet et on a posé deux principes très forts. Le premier, c'est l'exhaustivité et le deuxième, c'est la transparence. Exhaustivité, ça veut dire que toute contribution sera lue et traitée. Lorsqu'il arrive sur le site, par définition, c'est déjà numérisé et disponible pour traitement. Mais on a aussi la question des courriers. On reçoit une centaine de courriers par jour et des cahiers citoyens. On a près de 10 000 cahiers en mairie et c'est important de les traiter. Donc on travaille à la numérisation. Et par exemple, on est en train de discuter avec la BNF, la Bibliothèque nationale de France, pour nous aider à savoir comment numériser, traiter tout ça, et d'ailleurs comment archiver.
Vous voulez dire
parce que ça sera très important d'archiver toute cette matière. Le deuxième principe, c'est la transparence. Tout sera rendu public ou disponible aux chercheurs. Le seul critère entre public, c'est-à-dire en ligne ou disponible aux chercheurs, étant notre capacité à anonymiser. Parce que certains courriers décrivent des situations personnelles et les personnes qui nous écrivent n'ont pas forcément donné un consentement pour que leur courrier soit publié. Donc si ça n'est pas publiable, ça sera rendu disponible parce qu'il est très important que les chercheurs et tous les acteurs politiques qui s'intéressent à ce qui se passe dans le grand débat et accès à ses contributions.
Tous les cahiers de doléances seront archivés et numérisés
donc, puis archivés.
On pourra parler des doléances, cahiers de doléances de 2019 dans des centaines d'années et tout sera traité.
Oui.
Vous avez parlé d'exhaustivité.
Oui.
C'est un défi considérable.
Ce sont les deux principes que nous cherchons à atteindre. Exhaustivité, transparence.
Pardon. Est-ce que la collecte, par exemple, de ces cahiers de doléances a commencé? Parce qu'il y a une question de temps et de délai, là.
Alors, la collecte, les cahiers sont pour l'instant encore très largement en mairie. Certains ont déjà été envoyés à Paris. Nous sommes en train de finir toute la contractualisation. Nous respectons le code des marchés publics. Et tout ceci commencera deuxième quinzaine de février.
Et donc, tous les Français pourront consulter, ça vous vous y engagez. Rien ne sera mis sous le boisseau, rien de gênant ne sera effacé dans le traitement, au cours de traitement.
Mais c'est extrêmement important que la parole soit retranscrite et prise en compte. Donc, exhaustivité, transparence. Mmh. La seule limite, c'est la capacité à publier des contributions qui ne sont pas anonymes et qui sont personnelles et pour lesquelles on n'a pas eu l'autorisation de la personne qui nous a écrit pour nous dire « je souhaite que mon courrier soit rendu public ».
Nous apprenez donc que la Bibliothèque nationale de France, qui a l'habitude de numériser les écrits, donc sera sollicitée.
Participera à cette opération.
C'est quel budget tout ça?
Alors, le budget n'est pas complètement consolidé. On s'est engagé à le rendre public quand l'opération sera finie. On n'a pas signé la totalité des marchés, donc les prix ne sont pas encore complètement déterminés. Pas de réponse à ce stade, mais la réponse viendra.
Allez, rien à voir pour finir, il reste quelques secondes. Victoire pour les défenseurs des oies sauvages. Le Conseil d'État a ordonné la suspension immédiate d'un arrêté autorisant la prolongation de la chasse aux oies sauvages en février. C'est une bonne nouvelle pour la Ligue de protection des oiseaux, en tout cas.
On change de vision sur la chasse. C'est difficile de répondre en quelques secondes. On a posé avec les parlementaires, les chasseurs et les associations de protection de la nature une vision qui s'appelle la gestion adaptative des espèces. En gros, au lieu de se dire soit on peut tuer toute une espèce ou zéro d'une espèce, la gestion adaptative, c'est des prélèvements en fonction de l'état de conservation de l'espèce. Pour les oies, le gouvernement pensait qu'on pouvait chasser quelques oies en février. Le Conseil d'État a dit non, ça n'est pas conforme au droit communautaire. Ça pose aussi la question du droit communautaire.
C'est Brigitte Bardot qui va être contente, hein, parce qu'elle a écrit récemment à François Drugy en l'insultant, etc. Peut-être qu'elle va vous écrire, Emmanuel Vargon.
On lui répondra.
Bravo, et elle lui répondra. Merci à vous d'avoir été sur elle ce matin.
Sur le départ de Mathieu Orphelin, je le regrette, il a tort de voir le verre à moitié vide. Sur le diesel, dans l'attente de preuves scientifiques, le ministère s'opposera donc à la vignette critère 1 pour le diesel dernière génération. Enfin, l'intégralité des cahiers de doléances sera archivée et consultable avec l'aide notamment de la très grande bibliothèque, vient de nous dire Emmanuel Vargon. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr et nous sommes avec Cyprien Signy dans un instant.
RTL Matin, 7h56.